Radio Germaine.
Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine.
Saison 13.
Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Popcorn. Ce soir, je suis en compagnie de Costal.
Bonsoir.
Paul.
Bonsoir.
Valentine.
Bonsoir.
Margot.
Bonsoir.
Juliette.
Bonsoir.
Et Arthur.
Bonsoir.
Au programme ce soir, nos critiques sont allés voir trois films. Le premier, c'est Bâtiment 5 de la Gili. Puis ensuite, on va au Brésil pour voir L'Éventé de Lila Alla. Et enfin, nous allons parler du dernier film d'Alice Rohrwacher, La Chimère. Est-ce que Juliette, tu pourrais commencer à nous parler de L'Éventé ?
Oui, donc L'Éventé, c'est le premier film de la réalisatrice brésilienne Lila Alla qui nous présente Sofia, une joueuse de volleyball de 17 ans qui fait partie donc d'une équipe de volley qu'on pourrait qualifier de queer, je pense, et qui va se retrouver enceinte. Et en fait, c'est une joueuse très prometteuse. Elle est censée avoir une bourse pour aller jouer au Chili, je crois.
Oui,
je crois que c'est au Chili, voilà. Et cependant, le fait qu'elle est enceinte va donc potentiellement l'empêcher de partir au Chili et d'avoir cette bourse. Et du coup, elle va tout faire pour se débarrasser de ce fœtus. Je sais pas si Valentine, tu veux commencer à en parler ?
Oui, alors je vais commencer doucement, parce que moi, j'ai pas ressenti grand-chose devant ce film. C'était pas une relation d'une intensité folle, contrairement à La Chimère, que j'ai adoré, mais dont on parlera après. Moi, c'est un film, déjà, les 20 premières minutes m'ont vraiment laissé indifférente.
Bah déjà,
parce
les
que...
20 premières minutes, Valentine n'était pas là.
Alors,
t'as manqué les
20
premières pas... minutes.
Non, alors les 20 premières minutes, à partir du moment où je suis arrivée...
les 40 premières minutes
m'ont paru en réalité assez décevante, parce que j'ai trouvé qu'on tombait dans beaucoup de clichés qui peuvent être associés à la question des grossesses non désirées. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un thème et une idée de scénario qui méritait mieux que ça, parce que non seulement ça se passe au Brésil, donc dans un pays où les droits à l'avortement sont évidemment très menacés par tout un tas de facteurs, mais en plus de ça, ça se passe dans une équipe de sport, donc c'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui se sert de son corps, qui est normalement censé pouvoir modeler complètement son corps et être en totale maîtrise, et qui là se retrouve face à quelque chose qui ne dépend pas d'elle. Et en plus, viennent s'ajouter à ça des relations que j'ai trouvées très intéressantes pour le coup, avec son père, avec sa copine et avec les autres membres de son équipe. Donc ça avait tout pour faire que ces axes se développent de manière très originale et en plus avec une esthétique qui aurait vraiment pu être vraiment sympa à voir. Et moi, j'ai trouvé que ça n'allait c'est pas que ça n'allait nulle part, parce que ce serait trop condamné ce film que de dire ça, mais j'ai trouvé que ça se perdait un peu dans la plupart du temps une platitude qui était assez ennuyeuse, et de temps en temps au contraire une suresthétisation. Je pense notamment à des scènes un peu en lumière thromboscopique ou avec des liquides qui lui coulent sur le visage, on sait pas trop d'où ça sort, ou alors cette histoire d'apiculture. Ça fait un peu on voulait mettre des éléments symboliques sans vraiment que ça rentre dans un propos plus développé. Et j'ai regretté aussi que la question de l'église évangélique et des groupes de pression, qui sont pour le coup abordés de manière hyper intéressante dans plusieurs scènes, ne soit pas encore plus poussée, quoi. J'ai encore des choses à dire, mais je vais peut-être laisser quelqu'un me répondre.
Je pense que c'est moi qui vais répondre, puisque je crois que je suis la seule à avoir aimé le film. Mais globalement, si je suis d'accord avec toi, Valentine, qu'il y a vraiment plusieurs défauts, moi je trouve que justement, ce qui marche bien, c'est cette représentation des groupes évangélistes, et je trouve que c'est ça qui fait tenir le film, parce que le début est effectivement un peu plus lent, même si moi j'ai bien aimé, et je suis toujours cliente d'une esthétique, je pense, qu'on pourrait qualifier de pop. Mais de pop plutôt bien faite, néanmoins, et moi c'est quelque chose que j'aime bien. Après, je suis cliente, je comprends qu'on puisse ne pas aimer aussi, ça pour le coup. Mais justement, moi je trouve que c'est ce qui m'a prise dans ce film et que je retiens, parce que j'ai vu il y a un peu plus longtemps qu'à sa sortie là maintenant, c'est que vraiment je retiens la tension de justement ces groupes évangélistes, cette pression qui est là, et aussi cette méchante qui genre ressemble littéralement à une petite mamie trop gentille, genre qui a le visage de quelqu'un qui est adorable et qui en fait est le démon sur terre.
Est-ce que vous trouvez pas qu'elle ressemble à, je suis désolée, Ref Niche, mais la maman et la putain, comment elle s'appelle, la vieille
Chiant, allez.
Je fais le montage.
Vortex avec celle qui joue dans Vortex avec
Argento.
Oui, d'accord.
Et qui joue aussi dans le livre des solutions. Enfin bref, j'ai son nom m'échappe, mais son portrait craché. Bref.
Ah putain, oui, j'ai un
truc. Oui, non, mais ok, je vois. Oui, elle lui ressemble un peu. Mais bon, bref, tout ça pour dire que je trouve que justement, moi, ce qui m'a séduit dans ce premier film et qui je trouve marche vraiment bien et que je retiens, à part cette esthétique pop, c'est le rythme qui est mis par ces groupes évangélistes qui font de, enfin, qui paraissent tout souriants et bien sur eux et qui en fait sont littéralement l'enfer sur terre. Et enfin, je veux dire ça, le film le monte par la pression parce que moi, ce que je retiens de ce film, c'est que le côté un peu thriller en fait, la fin, parce que la tension monte en fait au départ. Du coup, il me semble qu'il y a le nombre de semaines écrit à l'écran, je sais plus, non?
Non.
Ok, mais en fait, on comprend que le temps passe et donc en fait, c'est ce temps-là qui ajoute la pression scénaristique en fait, parce qu'elle doit se débarrasser, enfin, plus le temps passe, plus c'est difficile de se débarrasser du fœtus. Et justement, c'est aussi pour ça que le début est lent et qu'en plus, comme ça, on est aussi introduit à ce groupe, cette équipe de volleyball qui, encore une fois, je trouve hyper intéressante. Et donc, moi, je trouve que c'est le rythme que je retiens, cette espèce de thriller qui nous met vraiment dans sa peau et qui nous fait comprendre sa situation de manière filmique, par le montage, par les musiques. Tout s'accélère, tout devient plus rapide. Et en fait, on ressent... Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti avec elle ce qu'elle vivait, quoi. Mais je sais que vous n'êtes pas globalement d'accord, donc vous pouvez me répondre.
Bah, moi personnellement, ça a produit un peu l'effet inverse, parce que tous ces effets de montage qui me paraissaient un peu superflus m'ont plutôt sorti du film qu'autre chose, et j'ai trouvé ça un peu dommage que la réalisatrice se repose pas uniquement sur l'énergie, le dynamisme de ses personnages principaux et de ses actrices, qui sont toutes et tous, parce qu'il y a aussi des personnages queer très bons, très intéressants à leur manière. Mais je trouve que ces effets de montage avec la musique électro... avec des espèces de coupures noires qu'on comprend pas vraiment, couper un peu l'intensité de certaines scènes, et au contraire, je trouve, entraver un peu cette montée en tension dont tu parles, enfin cette escalade. Et pour moi, je l'ai pas vraiment ressenti en fait. Enfin, ça m'a vraiment plus sorti du film qu'autre chose. Et il y a aussi autre chose que j'ai trouvé un peu dommage. Mais après, il y a des trucs que je trouve bien dans le film. Par exemple, je trouve que les corps sont très bien filmés dans ce film. Les corps de personnages féminins et des personnages queer sont extrêmement bien filmés, que ce soit sous la douche, pendant les scènes de sexe, je trouve que c'est très intéressant. Je trouve cependant que la réalisatrice peine un peu à aller au-delà de filmer des corps et qu'elle donne pas beaucoup d'individualité aux personnages. Donc je pense que c'est pas un film manichéen, parce que le manichéisme est un peu dépassé grâce au personnage du père, qui a une position toujours un peu ambiguë, mais je trouve que les personnages... au final, sont un peu schématisés, quoi. Et même le personnage principal, je trouvais ça dommage qu'il soit pas davantage peut-être développé sur certains aspects, parce que par exemple, les scènes de volley sont hyper mal filmées. On voit pas du tout son génie au volley, parce qu'on nous parle tout le temps qu'elle est géniale, qu'elle est vraiment très très douée, mais on le voit pas. Enfin, j'ai l'impression de voir ce que je faisais en EPS en 5e. Enfin, il y a pas de pas vraiment de... Je vois pas son génie, quoi.
Moi, j'ai pas l'impression de me voir personnellement, mais c'est aussi parce que j'étais nulle. Hein.
Je suis un génie également.
Oui, voilà. Bah, c'est ça, parce que...
en Chile.
Exactement. Mais du coup, oui, au final...
Valentine, c'est notre caution accent.
Non, mais du coup, je trouve que le personnage existe assez peu en dehors de son combat pour l'avortement, ce qui est un parti pris, ce qui, au final, me plaît peut-être pas tant que ça non plus. Et je trouve que du coup les personnages sont tous un peu enfermés sous la chape du teen movie, un peu de film à bande où l'individualité de chacun n'est pas vraiment exprimée, quoi.
Ouais, mais c'est pas forcément gênant. Enfin, moi, parce que c'est pas forcément
moi ça m'a un peu gêné.
Ouais, c'est pas.
Je pense que c'est pas aussi la manière dont les autres sont filmés, c'est faire un seul corps et c'est un peu ces deux, les deux. Alors le personnage principal, tu peux peut-être dissocier un peu, séparer du groupe sa copine, mais le reste est un groupe qui l'a. Enfin, je veux dire qui l'attire vers le haut. Enfin, tu vois, je suis pas sûre que ce soit vraiment nécessaire. Justement, je pense que s'ils avaient individualisé chacun des personnages, ça aurait plus fait film de bande, en fait. Et j'ai pas trouvé ça dérangeant qu'on se focalise plus sur le personnage principal. Moi, je vais un peu me situer entre vous tous, mais je vais surtout dire que je trouve que le film est assez oubliable. Je trouvais que la thématique était intéressante. Effectivement, le fait de le situer dans le milieu du sport, c'était un axe plutôt intéressant. Mais globalement, tu ressors du film et voilà, moi je pense que c'est un film que je vais malheureusement oublier très rapidement. Je trouve effectivement que la symbolique, t'en parlais Valentine, se place au mauvais endroit. En fait, il y a des incursions symboliques un peu insupportables avec le miel qui coule sur la table, sur le mur, qui reviennent 15 fois, on a compris, et en fait ça nous dit rien. Alors que justement, je trouve qu'il y avait toute une symbolique à développer sur, comme tu disais un peu Valentine, sur ce corps sportif qui est censé être maîtrisé, qui se retrouve tout d'un coup habité. Et il y aurait, je trouve, je te rejoins un peu du coup Costal, sur la manière de filmer des corps. Je pense qu'il y avait un vrai travail à faire qui n'a pas été fait, et j'ai trouvé ça assez dommage.
Bah moi je vous rejoins tous les deux, Costal et Thaïs, et je vais revenir juste sur le personnage principal. Costal, tu disais que t'avais que les scènes de volet étaient mal filmées, qu'on avait du mal à la voir exister en dehors effectivement de sa grossesse non désirée, etc. Mais moi je trouve qu'en fait ce qui m'a manqué, c'est de voir parce que c'est une sportive, c'est une fille de 17 ans qui se retrouve confrontée à une grossesse, et il y a une société qui la violente, et je trouve qu'on voit pas une détermination, mais que ça pas forcément une détermination. Je lui demandais pas d'être une, enfin je veux dire, elle a 17 ans, elle est démunie, etc., donc évidemment qu'il y a une position de vulnérabilité qui est normale, mais moi je trouve qu'on voit peu de détermination, même comme tu disais, de sportive. On la voit pas déterminée en tant que sportive, on la voit pas déterminée en tant que, même en tant qu'amoureuse, en tant que, en fait je trouve qu'elle est assez moi, c'est ça qui m'a fait rester en dehors du film, je pense vraiment, en fait, après réflexion, c'est sa fermeture. En fait, on sent, on la sent fermée à son extérieur, et en fait, le scénario nous dit que c'est pas ça, que c'est quelqu'un qui se bat, et qui se bat avant sa grossesse, après sa grossesse, et qui va continuer à aller de l'avant, comme on le voit dans la scène finale. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent pas, même dans le jeu, dans l'écriture des dialogues. Elle parle pas beaucoup, d'ailleurs, et... Après, elle n'est pas obligée de parler, ça aurait pu être montré autrement, mais moi, ce n'est pas un personnage que j'ai senti drivé par quoi que ce soit. Enfin...
Ouais, après, encore une fois, moi, je pense que ça dépend peut-être de la lecture que tu en fais, mais moi, je vois comme cette grossesse qui arrive de manière aussi soudaine. Justement, c'est quelque chose qui la ferme complètement à son monde et qui la retire des ambitions qu'elle pouvait avoir. Et tu vois quand même la différence entre le début et pendant la grossesse. Et moi, je trouve qu'il y a pour le coup une volonté de... En fait, elle veut se battre. Enfin, elle fait tout pour interrompre sa grossesse. Mais en même temps, elle est face à l'impossibilité de la tâche. Donc, elle se bat sans se battre parce que pour elle, en fait, il n'y a pas d'issue. Je pense qu'il y a aussi cet enjeu de représentation-là. Et je trouve que pour le... Enfin, ouais, moi, ça ne m'a pas du tout dérangé, cette fermeture du personnage. Et j'ai trouvé qu'elle était justement voulue, écrite et pertinente.
Ouais, moi, je suis globalement assez d'accord. Surtout pour revenir ce que Costal, en fait, tu disais sur la bande. Parce que vraiment, ce film, il a plein de défauts. Notamment la symbolique dont vous parliez, qui est effectivement répétitive et un peu trop lourde. Mais... Moi, j'aimerais râler quand même que c'est un premier film et que moi, je me souviens surtout de l'énergie, parce que Costal, tu parlais de cette bande et que du coup, ça a rappelé les teen movies. Mais en fait, moi, ce que je retiens de ce film, c'est l'énergie à la fois par du coup le truc dont je parlais du tempo qui, moi, je trouve marche bien quand même, malgré tout. Et à la fois, surtout, ce qui est, je trouve, un peu en plus par rapport à d'autres films qui parlent d'avortement, notamment, on peut penser à L'Événement qui était sorti il n'y a pas très longtemps. Là, c'est le côté bande, en fait, qui le soutient, parce que c'est ce groupe de volets, effectivement, les personnes du groupe ne sont pas filmées dans leur individualité, mais justement, c'est cette énergie-là qui rend le film vivant, qui rend déjà la situation vivable pour le personnage principal. Et qui surtout, je sais pas, moi, fait de ce film un peu nouveau sur l'avortement. Je sais pas, il y a vraiment pour moi une énergie, une sororité. En fait, j'ai l'impression que ce film aussi nous montre ce que c'est la sororité par cette équipe de volets qui on n'imagine même pas exister dans le Brésil de Bolsonaro globalement et qui fait aussi plaisir à voir, quoi. Enfin, je sais pas, moi j'avoue que j'ai envie de garder ces moments-là, même si je suis d'accord avec vous, à la fois ouais, la tension et l'énergie de l'équipe. Et le fait que, ouais, elle forme juste un. Et je trouve que, Costal, tu disais plutôt qu'elle filmait bien les corps. Moi, je suis quand même d'accord sur le fait qu'elle filme bien... Enfin, en tout cas, d'une manière très sensuelle, d'une manière très douce. Et sans jamais, comme on disait un peu sur How to Have Sex, sans jamais objectifier, surtout. Et je trouve que ça, c'est quand même intéressant et pertinent de le noter.
Juliette, tu auras bien défendu ce film. On va passer tout de suite à La Chimère. d'Alice Rohrwacher. Et c'est Arthur qui nous présente le film.
La Chimère de Alice Rohrwacher est du coup un film italien qui a été nommé à Cannes et au Festival de Toronto également. C'était un film du coup que peut-être certains avaient vu à Cannes ou pas. Et non, parce qu'on est retardataire. Il nous raconte l'histoire de Arthur, un archéologue britannique qui, en Toscane, découvre dans les années 80 un réseau de trafiquants illégaux d'artefacts étrusques. Et il va s'y mêler tout en rencontrant les gens qui peuplent ce petit village, un village qu'il a déjà connu auparavant. Et je vais tout de suite commencer par Paul. Paul, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Je pense que tu veux dire Arthur et pas Arthur.
Déjà. Alors oui, il fallait faire un choix, c'est soit Arthur comme les personnages, soit Arthur comme il doit être, soit Arthur pour moi. Donc ce sera comme vous voulez.
Effectivement, par le très sympathique Josh O'Connor, que vous connaissez peut-être de The Crown. Et oui, c'est un film de beaucoup de choses, en fait. C'est un film qui, évidemment, se concentre sur le thème du rêve, sur la mort, un peu comme l'un de mes films préférés, c'est-à-dire Un couteau dans le cœur avec Vanessa Paradis, sorti il y a quelques années maintenant. Allez le voir, c'est formidable. Et c'est filmé en 4 tiers. Voilà, c'est un film qui fait penser. Non, mais plus sérieusement, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Déjà, de façon assez pragmatique, pour sa photographie, qui est absolument magnifique, les paysages italiens gigantesques dans lesquels elle perd ses personnages, qui sont parfois entrecoupés de cette très grande centrale électrique qui sert autant de rappel un peu terrifiant de l'industrie, qui reviendra à de nombreuses reprises et de façon plus ou moins subtile au fur et à mesure du récit, qu'effectivement, cet espace complètement vide. Et je vous parle de rêve aussi parce que c'est un film que je trouve assez fascinant dans la déréalisation de son scénario. Je m'explique, c'est un film qui va à deux reprises re-raconter son histoire sous la forme d'une chanson pour terminer deux moments du récit avant d'entrer dans ce qu'on pourrait appeler presque une nouvelle, pas réalité, mais une nouvelle période qui va alterner entre deux formats pour créer plusieurs strates de pensée. En fait, ça crée ce film où le récit lui-même, parce qu'il fréquente avec le royaume des morts, parce qu'il se perd dans ces niveaux d'images, de représentations, dans ces esprits finalement qui abondent au milieu même en fait d'une réalité très pragmatique. Tu l'as dit, en fait, les gens qu'on suit, c'est un peu des bons à rien. Ça rappelle beaucoup les Vitelloni de Fellini, ou ce genre de personnages. C'est une bande de bras cassés qui récupère effectivement ce mec-là un peu paumé. Et, ou même l'espèce de maison décadente italienne dans laquelle vit une Isabella Rossellini complètement transformée, et ses 15 filles et sa servante. Enfin, c'est cette galerie de personnages qui existe ou n'existe pas vraiment dans ce récit, en fait, qui vous a emporté. Moi, c'est ça qui m'a vraiment, je pense, marqué. C'est que c'est compliqué de réaliser le rêve. Et c'est un des rares films où je pense qu'on y trouve une sensibilité juste.
C'est la fin de cet épisode.
Non, c'est pas du tout la fin de cet épisode parce que moi, je vais reprendre sur ce que t'as dit, Paul. Je trouve que... Enfin, j'ai été aussi très intéressée par ce côté reprendre l'histoire et nous la raconter sous forme d'une chanson. Et ah, ça fait 25 minutes que je comprends rien, mais que j'adore. Et là, maintenant, je comprends autre chose et je continue à adorer. Enfin, ouais, c'est un film que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Parce que, comme tu l'as dit, c'est un film qui nous parle... Alors, je suis moins d'accord avec toi sur le côté, c'est des bons à rien, etc. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait surtout une atmosphère de conte. Enfin, c'est complètement onirique, sauf les deux personnages que sont Arthur et Italia, qui sont là, enfin, qui sont complètement déplacés. En fait, j'ai du mal à m'exprimer sur ce film parce que je trouve que c'est vraiment une histoire d'image et de sensibilité. Et moi, ce que j'ai surtout aimé, et ça tu l'as peut-être pas assez dit, c'est la manière dont elle filme le vide, l'absence, ce qu'il y a sous la terre, ce qui attire, ce qui n'est plus là, enfin ce qui n'est plus là ou pas là, et ce qui attire, enfin les chimères finalement. Et qu'est-ce qu'on cherche quand on court après ces chimères? Est-ce qu'on cherche des trésors? Est-ce qu'on cherche des rêves? Est-ce qu'on cherche le passé, la mort, l'amour? Enfin, qu'est-ce qu'on cherche? Mais en même temps, sans jamais tomber dans le film intello, explicatif, chiant. Enfin, c'est toujours magnifique. La symbolique, pour le coup, est vraiment... Enfin, c'est une symbolique de conte, c'est pas une symbolique de psychanalyste, quoi. Enfin, pour être... Enfin, bref, c'est...
Dédicace à Lacan. voilà. Le plus mauvais des cinéastes de France.
C'est vachement bien. Costal et Margot échanger des
regards. Entendu.
Peut-être que l'un de vous deux veut voilà, prendre position. Par
non, mais je pense qu'on a un peu tiqué, peut-être à juste titre, sur le intello
chiant.
C'est pas
un film, un de notre psychanalyste. Alors,
c'est, bon, ça, ça l'est un peu, mais après, ça, ça s'assume, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé le film, hein, personnellement, mais ça l'est un peu, je trouve. J'ai un peu envie de dire des trucs négatifs parce que vous avez été tellement positifs, mais en même temps, j'ai bien aimé, donc oui, bah donc voilà. Mais je vais un peu commencer le travail pour Margot comme ça, après, pour défoncer sa mère. Je sais pas, en fait. Donc, moi, j'ai trouvé que. Bon, en fait, la première partie du film, je l'ai pas vraiment aimé parce que j'ai trouvé que l'introduction était un peu artificielle. Je trouvais que ça peinait un peu à aller au-delà du personnage un peu cliché. Cet étranger mystérieux, il a pas de passé. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est beau, il est un peu bourrin, je sais pas, enfin, un peu chiant, un peu cliché, honnêtement. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça si bien que ça. Et je trouve que l'histoire d'amour entre lui et, donc, du coup, le personnage de Beniamina. Non.
Ah, Beniamina.
Non, oui, de Beniamina.
La chimère, la déesse.
Elle est.
Ariane.
Voilà, Ariane, c'est vrai, avec son fil.
Très, très subtil.
On
ne
sait pas dans quel sens il va,
je l'avais
il
pas.
Change de sens. C'est vrai.
Moi, je l'avais.
Bah, bah, moi, je trouve que je l'avais un peu trop à mon goût.
Pour les pas un télo, pour les pas un télo.
Moi, je n'ai rien capté tout ça, je suis rentré.
Bah non, mais après, peut-être que c'est... Enfin, peut-être qu'on attend, mais c'est vrai que... Oui, j'ai quand même beaucoup pensé à Ariane et Margot aussi.
Je pense que
oui, voilà. Dans les tons, qu'est-ce qu'on va chercher? Est-ce qu'on va chercher son ancien amour? Enfin, genre, qu'est-ce que... Bon... Moi, je trouvais ça un peu convenu au final, ce lien-là entre, qui existe entre Beniamina et donc le Arthur, le personnage principal. C'est un peu convenu, c'est pas vraiment développé, c'est pas vraiment expliqué. Au final, ça laisse le spectateur un peu confus. Les flashbacks sont un peu récurrents et trop appuyés, je trouve. Enfin, donc, je sais pas, je trouve qu'il y avait quelque chose qui marchait pas avec ce personnage principal. Je trouvais qu'il y avait, j'arrivais pas à me raccrocher à lui. Mais ceci étant dit, j'ai trouvé que. Beaucoup de scènes étaient extrêmement bien faites, notamment les scènes de pillage de tombes, parce que je trouve qu'effectivement le portrait qui est fait de ces pilleurs de tombes est vraiment très très fascinant, notamment aussi parce que d'un point de vue historique, voir cette civilisation étrusque qui a disparu, machin, c'est quand même assez troublant. Et puis juste les scènes de pillage en tant que telles, où elle a un regard très empathique sur ce groupe un peu de marginaux, qui pose un peu la question de est-ce qu'on peut profaner, est-ce que c'est ok de profaner pour sortir sa vie de la misère, où se situe la frontière entre le sacré et le profane, quand est-ce qu'on bafoue un peu les morts pour un peu sauver quelques vivants, enfin j'avais des questions un peu intéressantes, je trouvais.
Philosophique.
Ou en tout cas, genre, c'était intéressant, et puis les scènes de pillage de tombe étaient vraiment fascinantes, et puis aussi l'esthétique du film est vraiment léchée, les couleurs sont très belles, la pellicule donne un grain très particulier, les décors sont un peu fantasmagoriques, machin, enfin je trouve que c'était... Je me suis vraiment laissé porter par la poésie de certaines scènes. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment fait aimer le film, au-delà du coup de ce personnage principal que j'ai pas vraiment aimé, ce sont les deux personnages de femmes qui, pour moi, sont vraiment incarnés, c'est-à-dire la vieille femme qui règne un peu dans sa maison délabrée, essaye de garder sa prestance, sa fierté, à la fois en étant très douce et très dure. Enfin, c'est pas du tout un personnage de vieille mamie très mignonne dans son fauteuil roulant, elle peut être aussi très très dure. Et le personnage du coup d'Italia qui au départ est présenté comme étant très gauche c'est un peu une victime elle est pas spécialement belle machin et qui au final montre beaucoup de courage et de force et qui bon peut-être va sauver le personnage principal machin mais du coup je trouvais que ces personnages là étaient très incarnés et donnaient des scènes très très belles dans le film notamment la scène de bal aussi avec Italia qui danse au milieu des hommes et tout donc j'ai bien aimé ce film majoritairement pour ça, même si je regrette du coup que ce personnage principal ne dépasse pas vraiment les clichés et que Beniamina, son amour du coup passé, ne soit pas vraiment développé non plus quoi.
Alors moi j'accorde à ce film le fait que effectivement la thématique des pilleurs de tombes étrusques est quand même très intéressant et assez original. Après, moi, j'ai trouvé que ce film, c'était un ramassis de tous les clichés du cinéma italien indépendant qui le rendent extrêmement, enfin, à mon sens, extrêmement artificiel et vraiment pas du tout authentique. En fait, je trouve que ce film se regarde filmé, mais du début à la fin, je trouve que cette pellicule, oui, bon, c'est joli une pellicule, mais franchement, quel film italien récent n'a pas utilisé cette pellicule avec ce même grain et ces mêmes couleurs ? Bon, voilà. Et je trouve qu'en fait, ce film incarne vraiment, je dirais, l'incapacité du cinéma italien contemporain à en fait regarder devant lui et non pas derrière lui. C'est-à-dire que cette espèce d'esthétisation des années 80 avec voilà, les Italiens qui ont des mulets, des grands nez et des bombers colorés, c'est vraiment vu et revu. J'ai aussi trouvé que les références au cinéma italien, notamment à Fellini, étaient extrêmement appuyées, extrêmement lourdes. Notamment, je pense aux scènes dans la bâtisse délabrée de la vieille dame jouée par Isabella Rossellini, qui m'ont fait penser vraiment à une... Enfin, littéralement, tous les films italiens, je trouve, des années 60, des années 70. Par exemple, j'ai pensé à un film qui s'appelle « Séduite et abandonnée », dans lequel... qui se passe, en fait, dans une maison comme ça, délabrée, etc. Enfin, c'est vraiment... Je trouve qu'il n'y a aucune originalité, et c'est vraiment... je trouve un film intello, mais dans tout ce que le terme a de mauvais et de pas appréciable... Le personnage principal est insupportable, il est mais vraiment détestable, il est faussement énigmatique, enfin, et je trouve que la volonté de représenter voilà, ces communautés marginalisées, notamment je pense aux scènes de fin dans cette gare désaffectée qui est avec cette communauté autogérée de femmes, franchement c'était mais tellement lourd, c'était tellement pas subtil, enfin voilà. Je pourrais continuer longtemps, mais je vais peut-être m'arrêter là.
Eh bah écoute, Margot, tu seras pas invitée.
Non, écoute, je me dois de dire quelque chose. Non, alors, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que de toute façon, le cinéma se réécrit. Donc oui, forcément, il va y avoir des scènes qui font écho à d'autres films. Je vois pas en quoi c'est forcément dérangeant. Surtout que tu l'as dit toi-même, elle tient quand même un sujet qui est hyper intéressant. Je vais pas revenir sur ce que vous avez dit, Paul, Valentine, Costal, mais elle a un sujet qui est original et puis qui prend son temps à venir. Et en fait, je trouve ça presque dommage qu'on l'ait donné dans le résumé parce que c'est quelque chose qui arrive tellement mais de manière juste. En fait, je trouve que le film est juste d'une justesse profonde dans les plans. Alors effectivement, peut-être qu'à certains moments, ça frise le « on se regarde filmer » et « on se regarde composer ». La finesse de ce film, c'est qu'en fait le sujet est très alors est original mais en même temps très très primaire et tu peux y pousser ce que tu veux dedans. Si tu veux avoir une lecture philosophique du truc, bah tu le fais. Si tu veux avoir premier degré juste des gars qui pillent des têtes dans des tombes, bah tu peux aussi. Et moi j'ai trouvé ça très très réussi. Je me tais juste sur la fin parce que j'ai dû quitter la salle pour vous rejoindre. Je n'ai pas les 10 dernières minutes. Mais voilà. Et peut-être qu'ils sont
signifiantes. Et non. Et moi,
c'est peut-être la déception.
C'est ce que j'ai trouvé génial dans ce film, c'est que chaque plan te... Non, mais chaque... En fait... Attendez !
C'est génial dans ce film, c'est que la fin, c'est de la merde, en fait.
Non, mais... En fait...
Mais le début aussi.
Ce film, il te... Enfin, moi, il m'a tellement, à chaque plan, éveillé à des trucs nouveaux. Et parfois philosophique, parfois juste sensoriel, parfois juste de la musique qui était cool, parfois ça m'a fait rire. Enfin, en tout cas, à chaque fois, j'étais éveillée par ce que je voyais à l'écran, qu'à un moment dans le film, je vais pas spoiler, mais il y a un moment dans le film à la fin, et je pense que c'est à ce moment-là que Thaïs, tu as dû quitter la salle, mais je me suis dit, ok, là, ce serait bien que ça se finisse, ce serait une très belle fin, et ça, ce serait bien que ça se finisse là. Et en fait, il repart sur quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre pendant 15 minutes m'a resurpris et m'a refait penser d'autres choses sur le film. Et donc non, moi j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment
bien. Et puis en fait, il y a aussi un truc qui relève un peu de l'inexplicable parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent être effectivement très chiants, très pseudo-intellectuels. Je pense au cœur dont tu parlais, Paul, qui fait des analepses, mais aussi des prolepses, on ne sait pas trop exactement où ça se situe. Mais pour une raison un peu inexplicable, ça fonctionne en fait. Et il n'y a pas forcément... Effectivement, dans plein de films, je pense que ça fait juste mécanique intellectuelle chiante. Mais je trouve que dans ce film, ça fonctionne très bien. Et puis, oui, les allers-retours entre le rêve sont très bien menés. La semaine dernière, on parlait de l'ellipse. Bah là, franchement, je trouve qu'elle a une manière de faire l'ellipse qui est génial en fait. Tu la vois sans la voir, enfin tu réfléchis même pas et ça avance tout seul. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très bien, j'ai profondément aimé.
Moi je trouve que... Ah pardon, tu peux me parler.
Non, vas-y, vas-y.
Bon, juste rapidement, par rapport à ce que tu disais sur le fait que le film invite à plusieurs degrés de lecture selon la sensibilité personnelle du spectateur, moi, justement, j'ai trouvé que si on a une lecture premier degré, un peu de... Ah bah, je vais pas dire de novice, parce que ça nous ferait passer pour des grands experts, mais...
Des gros connards, ouais.
Ouais, des gros connards, parce que nous sommes un peu, mais... justement, si on voit ce film très premier degré, en fait, la volonté de la réalisatrice... de ne pas entrer dans une narration un petit peu classique où en fait on en apprendrait au fur et à mesure du film sur le passé de ce personnage, blablabla, justement en fait t'oblige à vraiment chercher la symbolique dans toutes les scènes, et moi je n'aime pas me sentir obligée comme ça à trouver la symbolique, parce que sincèrement si tu n'y cherches pas des espèces de représentations philosophiques, des messages, blablabla, franchement tu te fais chier quoi, enfin je veux dire,
pas du tout,
la narration elle avance pas,
pour le coup il y a un scénario, enfin il y a vraiment un scénario dans le film, il y a des rebondissements, il y a des événements, il y a des rapports de rivalité qui évoluent entre les personnages, non il y a une histoire derrière au-delà de ça, enfin je suis pas du tout d'accord, parce que je suis, enfin on peut le prendre premier degré, pendant un temps moi je l'ai pris premier degré, et il y a des défauts aussi au film, mais vraiment, ça, c'en est pas un, pour le coup.
Bah, moi, je serais mise entre vous deux. En fait, je pense qu'effectivement, prendre le film juste comme des gens qui vont déterrer des tombes... Enfin, j'ai pas vu les symboles, moi, tout ce qui est fil d'Ariane, etc. J'étais dedans. Et en fait, je trouve qu'on a utilisé le mot philosophique un peu de manière... négative. En fait, pour moi, le film est philosophique, mais parce qu'il pose des... Il pose, c'est mon accent dessus qui revient.
J'ai dit ça négativement parce que ça avait été
employé. Non, mais bien sûr. Mais sauf qu'en fait, moi, je trouve que c'est intéressant. Un film, c'est ce qui est bien avec le film, c'est philosopher, c'est aussi poser les bonnes questions. Et là, la question qui est posée, c'est ça qui est intéressant. C'est est-ce que, moralement, on a une responsabilité envers des personnes qui ne sont pas vivantes, qui ne sont plus là ? Et est-ce que, du coup, on peut s'en servir au bénéfice des vivants ? Et c'est ça qui est montré. Et en fait, c'est une question qui est hyper prosaïque, qui est hyper réelle. Et en fait, c'est pour ça que le film est intéressant. Et c'est aussi pour ça que, pour moi, on ne peut pas le prendre au premier degré. Parce que. Enfin, au premier degré, sans avoir la philosophie, parce que c'est ça, parce que la philosophie, c'est le centre du film, c'est l'éthique, c'est ce truc, est-ce que c'est ok de piller des tombes, en fait.
Et bah, ça qui est bien. Pour moi, c'est le premier degré.
Enfin, c'est le premier degré.
Mais
la
le film, est-ce moi, qu'il je parle pas de juste voir des gens qui descendent sous terre, c'est pas ça le premier degré.
Oui, mais ça te fait, je veux dire, ça te fait réfléchir, tu regardes juste pas des gens qui déterrent des crânes, et c'est pas genre, oh, un film d'aventure, on va déterrer des crânes, enfin, tu vois, c'est plus.
Plus que ça, c'est que les gens en parlent dans le texte littéral du film, il y a une conversation sur ce sujet à peu près à la moitié, donc c'est très premier degré en ce sens que les gens en parlent dans le film.
Oui, mais la manière, non, mais bien sûr, non, mais ce que je veux dire, c'est pas parce que c'est pas explicite que c'est pas philosophique. Pour moi, la manière dont tu le disais, Thaïs, j'avais l'impression que c'était un peu plus un truc genre d'aventure, genre de genre à la Indiana Jones.
Pour moi, les deux se combinent en fait. Enfin,
oui, mais aventure, pour moi, c'est impossible c'est d'avoir juste le truc d'aventure.
Mais il y a le côté conte, l'aventure du conte.
Ouais, mais c'est différent parce que là, c'est un conte qui est un peu mythique, qui est un peu. Enfin, qui est.
Bah, vous l'avez dit avant, plusieurs strato-récits en fait. Mais pour moi, c'est le premier degré de est-ce qu'on a le droit de récupérer des objets des morts ? Et effectivement, c'est dit pour moi dans le.
Oui, mais du coup, il n'y a pas de deuxième degré en fait. Parce que du coup.
Si, il y a tellement. Si, c'est tellement riche. Qu'est-ce que ça veut dire de courir après un trésor ? Qu'est-ce que ça veut dire de courir après le passé ? Qu'est-ce que ça veut dire de mythifier ?
Mais du coup, en fait, tout est imbriqué au même truc. Mais je pense qu'on débat sur un truc, mais où du coup, en fait, pour moi. Enfin. Ce que je veux dire, c'est que, genre, enfin, j'ai adoré le film, et pour moi, tout est imbriqué là, et c'est ce premier degré, en fait, c'est ce sens-là, mais c'est pas, enfin, ce film t'oblige à te poser des questions, en fait, c'est plus ça que je veux dire, enfin, tu peux pas le prendre et pas t'interroger sur ça, dit littéralement dans les dialogues.
Je pense que la sous-couche dont je parlais, ce serait plus un univers référencé avec le dialogue sur le rêve, effectivement, courir après quoi.
Mais en tout cas, je trouve que... Enfin, du coup, c'est pour ça que je disais, c'est pas possible de voir le film d'une manière non philosophique, parce que ça c'est abordé là, et c'est premier degré, et c'est très bien. Enfin, je veux dire, moi, c'est ça que j'ai aimé dans ce film. C'est qu'en fait, c'est un univers, c'est un conte qui nous berce, où on fait fi de tout réalisme, mais c'est ça qui est beau, en fait. Et je pense que je vais m'arrêter de parler, parce que vous avez déjà dit, mais l'aspect conte, l'aspect... Ouais, ça te prend, et même si le personnage principal est effectivement pas très attachant, je suis assez d'accord avec toi, Costal, je trouve que malgré tout, l'histoire marche et nous emporte, et moi, j'ai bien aimé la scène de la gare avec le petit matriarcat. C'est pas très subtil, parce qu'on en parle plusieurs fois, mais ça fait toujours du bien à voir, enfin, je veux dire, vaut mieux ça que des gens en entreprise qui sont tous...
Et ben moi, je vais rejoindre l'avis de ceux qui trouvaient que c'était bien ce film-là. Alors, genre, je suis vraiment le dernier étacheron parce que j'ai vu aucune des métaphores, le fil d'Ariane, machin. Enfin, fou. Après, j'ai fait ES, donc je pense que je suis vraiment genre juste un abruti de dernière. Mais néanmoins, moi, il m'a beaucoup plu. J'ai en fait beaucoup aimé la manière dont il a fait converser les époques en son sein. C'est-à-dire, c'est un film où, alors c'est peut-être parce que aussi j'ai loupé les les 5 premières minutes de ce film en arrivant à la bourse. Ce qui est bien, c'est qu'avec Thaïs, du coup, on a vu un film en entier.
En fait, personne ne l'a vu entièrement autour de cette table.
Mais on est en
train de bluffer, tout le monde a vu 20 minutes. Et juste Margot a vu les 20 minutes les plus douloureuses du film. Que celle a vu 20 minutes, moins pire, c'est pour ça.
Mais du coup, j'ai été plongé dans une atmosphère où j'ai pas été du tout situé dans le temps en fait pendant ce film là et je n'ai jamais su, c'est en lisant le résumé là en fait, quelle époque on était, est-ce qu'on était dans les années 40, 30, les années 20.
T'as vu comment ils sont fringués?
Au début
ils sont costumés.
Au début, non, costumé.
Mais justement, la remarque de Valentine était très juste, il y a l'intemporalité du conte. Enfin,
et moi, je te rejoins, c'est vrai que c'était toi qui avais dit ça, et je te rejoins vachement, Valentine, dedans. Il y a un truc de, on ne sait pas quand est-ce que ça se passe. Et la seule chose, en fait, les deux choses, en fait, temporelles qui vont nous arriver, c'est les Étrusques qui, en effet, datent d'il y a plus de 2000 ans, et cette centrale électrique immense qui nous rappelle toujours à la modernité. Et j'adore ce film-là qui constamment, en fait, va nous faire passer de gens qui, on a l'impression quasiment qu'ils vivent au 19e siècle, en fait, ce petit village italien où on voit qu'ils n'ont pas l'électricité, donc ils vivent dans des bidonvilles de manière extrêmement précaire. Il y a un côté montrer une Italie qui sort à peine de la révolution industrielle, et d'un côté montrer la grande modernité qui écrase derrière les Étrusques tout en dessous. Moi, je trouve qu'il y a une manière constamment, en fait, de faire dialoguer les époques qui marche très très bien et qui fonctionne parce que le film donne pas toutes les clés, en fait on ne comprend pas trop qui il est, à part si dans les 5 premières minutes il y a un arbre généalogique qui se balade, mais on comprend pas
qui... Merde, tu as raté tout le film.
Mais moi j'ai adoré et je me suis dit peut-être que c'est parce que je suis rentré en retard, ou alors est-ce que c'est le film qui jouait intelligemment cette carte là de complètement te paumer et t'as du mal en fait à saisir mais qui sont les liens entre machin, entre bidule, et c'est ça qui donne pour moi la force du film. Le film aurait été plus explicatif qu'il en aurait perdu de sa saveur, il aurait été... Et presque, moi, c'est peut-être mon seul défaut, je trouve qu'il manque, allez, un tout petit peu d'onirisme. C'est-à-dire qu'il manque peut-être un truc un peu plus fou, une idée, en fait, qui aurait rendu peut-être le film plus stimulant. Mais encore, j'ai pas envie de cracher dans la soupe, je trouve que c'est vraiment un très bon film qui m'a
Margot
beaucoup plu.
Margot serait grimpée au rideau si tu lui donnais plus.
En fait, ce qui manque, c'est la scène finale de Memoria d'Apichat Pongvert à cet accord.
Non. Non, si, alors vraiment.
Si, absolument.
Non,
il faut rajouter.
Non, c'est du côté de Valentine.
C'est dans l'équilibre. C'est le contraire de Memoria. C'est-à-dire que c'est le contraire de ça. Tu disais que c'était
pas
stimulant. C'est tellement stimulant. Genre, c'est tellement. Tu découvres que sous la Terre, il y a toute cette réflexion, comme tu disais, sur la modernité qui écrase le passé, etc. Mais alors, à un moment donné, tu te dis, mais alors, est-ce que le rêve, le sacré, la beauté serait aller chercher sous la Terre? Mais en fait, non, sous la Terre, on peut aussi trouver des pièces d'or et les vendre à une espèce de folle qui les vend ensuite à des milliardaires américains. Enfin, un petit passage humour, l'incursion.
Généralement, quand tu l'annonces,
c'est que ça va pas du tout être drôle.
Et alors, attention, petite blague.
Non, mais moi, c'est l'incursion du français à un moment. Complètement, enfin hyper random, m'a fait mais mourir de rire pendant cette vente aux enchères.
Le face caméra, Nance.
Alors, moi, justement, c'est... Ah, tu veux dire le.
La vente aux enchères ou la face caméra
Les deux, enfin, ça pour moi, ça, c'est le même mouvement.
Moi, j'ai trouvé que cette rupture était assez gratuite. Et... Mais bah, pour le coup, j'ai pas du tout aimé cette espèce de mélange de langage. Effectivement, c'est un film très composé dans les époques, etc. Dans l'image, c'est très intéressant. Mais ça, pour le coup, ça le fait verser dans le pseudo-intellectuel. Pourquoi on va mettre de l'allemand? Elle parle allemand. On parle italien, on parle anglais, on parle allemand. C'est pas du tout ni nécessaire ni intéressant de les faire dialoguer avec des langues différentes qui sont utilisées de manière très, très aléatoire.
Oui, mais c'est pas ça qui est important.
Moi, je trouve... Pardon,
mais
si
c'est pas important, mais moi, j'aime bien quand c'est équilibré. Et du coup, je trouve que ça le déséquilibre un peu vers le...
Je sais pas, moi j'ai l'impression que aussi ça fait partie de leur culture parce que du coup elles sont italiennes du nord, du coup Alba et parce qu'il y a Alba Rohrwacher dans le film qui est donc la sœur de Alice, et donc en fait elle,
tu veux dire Alice
oui pardon, mais non mais du coup elle parle les trois
Rohrwacher.
Langues. Non mais du coup elle parle elle-même les trois langues dans la vraie vie, enfin allemand, français et
ouais bah
et
c'est
italien.
Chiant, ces gens-là ils sont chiants en fait.
Je sais pas, moi ça m'a pas dérangé, mais ce que j'aimerais pointer, c'est que je reverse très très rarement des genre des de la méthode de mise en scène. Moi je m'attache souvent au scénario, etc. Et là je trouve que je rebondis sur quelque chose que t'as dit avant, Valentine. Tu parlais de sa manière de filmer le vide, et en fait je trouve que elle filme le, enfin quand elle filme le vide, elle nous prend à contre-pied. C'est-à-dire que en fait je trouve qu'elle joue vachement sur les champs contre champs. À des moments on voit un personnage qui est étonné par quelque chose qui est hors du champ parce que qui est en face de lui. Donc normalement si on a un champ contre champ, normalement on verrait ensuite directement cette chose qui va l'étonner. Et elle en général, elle va plutôt ensuite dans le plan d'après filmer les gens de profil ou alors faire 3-4 plans où on ne voit toujours pas en fait ça, et c'est enfin l'objet de l'étonnement en fait. Et justement c'est ça qui crée ce vide, qui crée cette attente, qui va nous prendre à contre-pied et qui crée ce truc aussi atemporel, c'est que elle floue tout, elle joue avec nos habitudes, nos manières de même. Je trouve que ça m'a vraiment marqué ce truc de en fait comment elle arrive à brouiller les pistes, et du coup revenir sur ce que tu disais Paul de l'onirique. Et je trouve que voilà, c'était juste un petit truc.
Je te rejoins complètement. Je trouve ça merveilleux quand elle retourne la caméra et que et en fait pas là.
Non, mais, ouais, tu fais ça pour assassiner Margot à cette scène-là.
Mais Margot, mais Margot, on va en
faire pour moi.
Pas une caricature, mais Margot, je vais te.
Non, moi, j'ai adoré ces plans où je sais pas comment elle fait pour. La caméra se lève vers le ciel et quand elle redescend, en fait, tout s'est inversé, le sol est en haut et le ciel en bas. Moi, je trouve que ces plans-là, ils m'ont mindfuck parce que je n'arrive pas à voir comment elle a fait, mouvement de caméra elle fait.
Et puis, je pense qu'elle rallonge masterclass. Elle rallonge le temps vers le sol.
Ouais.
Et du coup, tu as une sorte de progression et tu te demandes, à un moment, il y a un plan sur des feuilles et tu te dis, mais est-ce que le plan va s'arrêter, et tout d'un coup, ça revient vers le ciel, et c'est effectivement très bien exécuté.
Vous avez fini votre concert de louanges.
Non, bah moi je trouve que c'est comme ça que tu reconnais un grand film, quoi. Enfin non, mais je trouve que quand le cinéaste compose vraiment avec l'image et se saisit vraiment de la matière, bah t'as un truc intéressant. Moi si c'est pour filmer de manière très passive, bah dans ce cas-là tu fais autre chose, quoi. Tu fais un documentaire sur les bandits qui volent les étrusques, quoi.
Vas-y Margot, c'est ta chance, ta dernière chance. Tu peux y aller.
Oui, bah Margot, moi ça m'a éveillée intellectuellement, pas toi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est...
Non, mais toi, est-ce que t'avais capté la référence au fil d'Ariane? Je ne crois pas.
Ah.
Voilà.
Donc, à l'unanimité, nous vous conseillons d'aller voir ce film, et nous allons passer au prochain, Bâtiment 5, le dernier film de Ladjili, et c'est Margot qui nous le présente.
Donc, Bâtiment 5, c'est le deuxième volet donc, de la trilogie que Ladjili consacre à la vie en banlieue, aux banlieusards. Donc, le film est centré sur la vie d'Abi, donc, qui est jouée par Anta Dia, voilà. Qui est une jeune femme très impliquée dans la vie de la cité. Donc, elle travaille dans une association, elle travaille également à la mairie. Donc, il y a autour d'elle toute une galerie de personnages, donc sa famille, également son meilleur ami Blaze. Et tout le nœud de l'histoire, de l'intrigue, se noue autour du fait que c'est un nouveau maire qui remplace par intérim le maire précédent et qui se met en tête, bon, on comprend pas très bien pourquoi, mais qui se met en tête d'expulser les habitants du bâtiment numéro 5, qui est le bâtiment où habitent Abby, sa famille et ses amis. Et à partir de là, va s'engager une lutte d'Abby et ses compatriotes, plus ou moins, disons, enfin en tout cas une sorte de révolte intérieure, plus ou moins, qui sort un petit peu de l'intérieur pour ne pas se faire expulser. Donc c'est vraiment un film sur le mal logement et les expulsions abusives en banlieue. Voilà.
Non, c'est pas bien. Non, c'est vraiment pas bien. C'est triste parce qu'on se rappelle un peu des promesses des Misérables, qui pour le coup est un film très efficace, très malin, très juste, avec très peu de graisse en fait. Et là, il n'y a que de la graisse. C'est vraiment, vous voyez, il y a le steak haché 5% de matière grasse. Bah là, c'est le steak haché 50% de matière grasse. C'est un premier jet de scénario qui a été adapté compulsivement par un réalisateur qui n'avait ni le temps ni le budget de le faire. Et c'est un peu malheureux parce qu'il a traîné toute sa clique d'acteurs habituels. Donc on a Manenti qui joue, tu l'as dit, un petit prévôt d'extrême droite odieux qui monte plus ou moins au pouvoir par hasard et qui devient plus en plus maléfique.
Il représente quel parti politique? Parce que je me suis un peu posé la question. Au début, je pensais qu'ils étaient PS.
C'est les LR.
Moi, je pensais qu'ils étaient PS au début. Non,
au début aussi, mais à partir du moment où ils parlent de leur politique, factuellement, c'est les LR.
Après, parfois, le PS, on est surpris par ce qu'ils font dans les mairies.
Ah oui, non, mais le PS...
Et vous, cher public, qu'en pensez-vous?
mais voilà, vous l'auriez entendu ici, mais Olivier Faure est beaucoup plus pétable que Jeanne Balibar, donc à partir de là...
N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Spotify pour nous
donner
votre avis.
Au-delà de cette information, non, en fait, on a plusieurs problèmes. Donc il a sa clique d'acteurs habituels, Manenti, Tchou, Effectivement, il y a aussi Jeanne Balibar dans un rôle absolument calamiteux où elle a 3 minutes de dialogue et c'est quand même les pires dialogues du film. Bon, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Le film a un propos qui est très intéressant, qui est très juste et qui est du point de vue, d'un point de vue que je trouve effectivement n'est pas assez représenté et c'est bien qu'il soit représenté comme ça. C'est la seule bonne chose que je peux en dire. Il y a un rythme complètement bâtard qui vient de plusieurs choses. D'abord, il y a trop de personnages. Ensuite, il y a trop de sous-intrigues. Chacune de ces intrigues ne se rencontre jamais vraiment, ce qui fait qu'on ne monte jamais vraiment vers quelque chose parce qu'on a l'impression qu'il y a juste une suite d'événements un peu plus ou moins simultanés qui avancent sans qu'on ait vraiment de bonne compréhension de la temporalité. C'est-à-dire que le film monte vers Noël. Le climax du film, c'est Noël, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas vous expliquer. Mais en fait, on ne sait pas où est-ce qu'on a commencé. Est-ce qu'on a commencé 4 jours avant, 10 jours avant, 3 mois avant ? Nolosso, comment ces gens commencent à prendre le pouvoir, s'installer ou même juste dominer cette situation est incompréhensible. Il y a une entière campagne politique dans ce film qui est résumée en 5 minutes du pire montage de la Terre et qui en fait n'aboutit à rien, sinon un début de propos qui se perd aussi dans les méandres. Et peut-être que c'est ça le sujet, c'est que finalement tout s'arrête parce que déjà Les Misérables s'arrêtait in medias res, mais dans Les Misérables c'était très puissant parce qu'on s'arrêtait in medias res dans le feu. Là on s'arrête in medias res dans la neige. Et en fait ce froid engloutit le film et moi me laisse de marbre et en fait il y a plein de bonnes intentions, il y a plein de bonnes idées, mais c'est un film qui est très moche en plus, et ça c'est mon dernier point et après je te laisse parler, mais c'est un film où l'image est très très laide, la caméra se tient un peu debout mais il y a beaucoup d'effets de mise en scène qui sont très fainéants et en fait il n'arrive jamais à créer une scène d'action convaincante. Enfin, je suis désolé, mais c'est l'image la plus plate avec les contrastes les plus immondes que j'ai eu depuis un certain temps dans un film à ce budget-là, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de figurants. Il y a beaucoup de figurants, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de mouvements, il y a quelques plans séquences qui sont assez impressionnants.
Drones.
Il y a beaucoup de drones aussi. Il y a par exemple la scène d'ouverture est magnifique. Cette lente descente de j'allais dire casquette, mais non, de cercueil. Au travers de 5 ou 6 étages de cité, ça c'est très très beau parce que c'est très méthodique, parce que ça prend le temps de développer tous les rapports de force qui peuvent être évalués dans une scène comme ça. Et en fait, une fois qu'on est sorti de là, ça devient un tel bordel qu'on se demande même si on n'est pas encore bloqué à l'intérieur du cercueil. Donc voilà, c'est un peu triste ce film en fait.
Moi je vais le défendre. Parce que je suis d'accord avec beaucoup de points que tu as mentionnés. En fait, je pense que c'est un film qui souffre de beaucoup de maladresses, de beaucoup d'imprécisions. Je l'imagine d'un manque de préparation, notamment au niveau du scénario, des dialogues, et qui sont parfois un petit, vraiment dignes d'un téléfilm TF1. Vraiment, je suis d'accord. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche dans ce film. Et justement, c'est pour ça que je trouve que c'est un film qui est extrêmement intéressant, parce que, je veux dire, académiquement parlant, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à redire, mais on y croit, on s'attache au personnage. Je trouve qu'il y a quand même une montée en tension qui, certes, vraiment rappelle Les Misérables. Hein. Clairement, voilà, on pose le décor, on pose les personnages, machin truc, l'intrigue s'installe, la montée en tension, on sait que ça va mal se finir. Je suis d'accord sur le fait que c'est pas très original, que c'est assez attendu. Mais je trouve qu'on y croit, je trouve qu'il y a une force et dans le propos, en fait. Et moi, je ne peux pas m'empêcher d'être attachée à ce film et d'être attachée à ce qu'il représente, d'être attachée aux personnes qui l'ont fait, parce que malgré tout, je trouve que c'est autre chose de voir un film comme ça, qui certes est maladroit, mais qui a été pensé, qui a été réalisé par quelqu'un qui connaît les enjeux dont il parle, plutôt que de voir un Lahen qui, certes, est peut-être une plus belle image, et ça je suis d'accord, qui est mieux écrit, mais qui est réalisé par un mec qui fondamentalement est un bourgeois qui ne connaît pas grand chose à la banlieue. Donc pour ça j'ai envie de défendre ce film, et je me dis que je pense que c'est un film qui peut être utile, qui gagnerait à être vu par pas mal de gens, et voilà.
Quand même la balle perdue pour Mathieu, tu sais qu'il se remet à peine de son accident de moto.
C'est violent, ça.
En plus, on a une tradition à Popcorn dont tu n'es peut-être pas au courant, mais on n'a pas le droit de prononcer le B-word.
Ouais, depuis que Paul, c'est un complexe. C'est juste pour Paul normalement.
Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que le propos est bien, mais enfin, il est desservi par le fait que le film, en fait, ce qui était puissant dans Les Misérables, c'est que c'est un film qui crée une réalité tangible au travers de son système narratif. C'est-à-dire qu'on avançait, on continuait à courir, et en même temps, on avait une réalité extrêmement précise de ce qu'on nous racontait. Ce qui fait qu'on pouvait comprendre. Là, il est complètement flou sur tout, ce qui fait qu'il n'y a aucune réalité dans aucun des enjeux qui déforme. Et c'est grave, parce que ça déréalise des luttes qui sont très concrètes sur un sujet qui est très concret pour en faire des moments de cinéma qui sont, pour la plupart du temps, assez moyens.
Ouais, c'est assez drôle, parce que en fait, moi, je vais prendre l'exact inverse de ce que tu as dit. Je pense que là où Bâtiment numéro 5 gagne, c'est là où Les Misérables perdait, c'était son point de vue politique. Je trouve que Les Misérables, alors je ne retire rien de l'aspect technique du film qui est bien mieux maîtrisé que Bâtiment 5, qui a de grosses faiblesses techniques et de scénarios qui parfois a du mal à s'enchaîner. Je pense qu'il lui manque une demi-heure quelque part et il lui manquait en fait de la matière. Mais contrairement aux Misérables, et ça c'est une analyse que j'ai mis du temps en fait à avoir, mais que j'avais lu et que je trouve assez juste, en fait Les Misérables, à vouloir expliquer que la balle perdue, ça n'était pas fait exprès, que c'était des faits divers et tout ça, la fait diversisation de ce film faisait qu'il n'avait plus de portée politique. C'était un film qui au final ne disait rien, vu qu'il disait « mais c'est pas vraiment la faute des gens dans les cités, mais c'est pas vraiment la faute des gens qui sont dans la police, on sait pas trop, c'est la faute à pas de chance ». Quand tu dis « c'est la faute à pas de chance », quand c'est de surcomplexifier, quand c'est de surnuancer quelque chose, en fait, ça n'a plus de poids politique. C'est de la neutralité neutre. Et la neutralité, elle est toujours du point de vue de l'oppresseur. Et au final, tu sortais pas de ce film-là en disant « ah bah tiens, je pense qu'il faudrait réformer la police ». Tu disais « la police, elle a pas de chance quand même » et tout ça. Et c'est problématique de sortir de Des Misérables, qui est un film qui quand même se place dans les cités, qui a un vrai problème en fait avec la police, et de sortir en disant ça. Et là où je trouve que Bâtiment 5 réussit son pari, c'est que là, pour une fois, en acceptant de prendre des personnages qui sont complètement clichés, oui, ce maire LR complètement abruti, fasciste au dernier degré, qui envoie la police dès qu'il a un souci à régler, dès que sa bagnole a été taguée. Oui, en fait, c'est vrai, quand les gens qui ont le pouvoir ont besoin de se faire respecter, ils vont utiliser forcément la force. Et démontrer qu'à chaque fois qu'il y a un souci, c'est par la force que ça va se régler, ça c'est politique, ça c'est vrai, ça c'est dit quelque chose, et ça dit beaucoup plus que, au final, Les Misérables, qui certes étaient très intéressants, très bien filmés, très bien scénarisés, mais qui disaient rien politiquement. Politiquement, il était vide, parce qu'il n'osait pas franchir ce pas-là, franchir le pas de simplifier les relations. Oui, un maire fasciste, ça existe. Oui, on est dans un film, évidemment qu'on peut pas surcomplexifier la narration, mais on est obligé de montrer ça pour donner un propos politique. Et c'est là où je trouve que Bâtiment 5 est bon, c'est qu'il a un propos politique, il a un vrai propos politique fort. Et c'est ça qu'on attend en fait d'un film, c'est con de dire en fait, mais d'un film de gauche en fait. Si le film il veut pas te donner envie de faire la révolution après, c'est que le film il a raté son coup. S'il te dit pas que l'institution elle a un souci, que la police par définition elle a un souci, que l'État par définition dans sa manière de régler les conflits c'est un souci d'utiliser la violence, alors il ne dit rien. Et moi, c'est là où j'ai trouvé que en fait, le film était très bon. Et ça, pour moi, emporte la plupart des soucis que tu as dit, en fait, parce qu'il est d'un coup beaucoup plus fort que Les Misérables, où j'étais complètement en dehors. Et en effet, moi, je trouve que les personnages qui sont là, alors certes, on a peut-être ils sont peut-être moins fins, mais l'héroïne de ce film, moi, j'étais vraiment pris dans son combat. Alors, je sais plus comment il s'appelle, Blaz, mais pareil aussi. Mais enfin, je suis complètement aussi dingue que lui au moment où je rentre dans cette dans la enfin, j'ai failli spoiler. Bref, dans cette scène de fin où, genre, je comprends ce qu'il sent, suis dans le même état que lui et j'ai envie même que ça déraille encore plus à la fin. Donc, moi, non, j'étais complètement pris par ce film.
Arthur, calme-toi.
Alors, moi, j'aimerais bien qu'on m'éclaire parce que je confonds toujours un petit peu avec Bac Nord, Les Misérables.
Pas le même film.
Mais c'est marrant parce que tu vois, je pense que Les Misérables est un meilleur pamphlet politique. On est entièrement en désaccord sur tous les sujets parce que je pense que Les Misérables est une meilleure démonstration politique d'un système qui sert à maintenir l'oppression des plus faibles par l'utilisation d'agents indépendants. Parce que je pense que Les Misérables part de ce fait divers pour démontrer les systèmes derrière et démontre que systématiquement, ces systèmes mènent à la violence et que cette violence touche systématiquement les populations défavorisées. Alors que Bâtiment 5, en ayant des personnages qui sont à la fois hyper caricaturales et absolument centrales au récit, démontre que, ouais, s'il y a un maire LR, ça va mal se passer parce qu'il va utiliser la violence. Et en fait, parce qu'il perd entièrement ce propos sur le système inhérent aux violences dans ces endroits-là, je suis désolé, mais pour moi, il faudrait mettre un maire de gauche à la place. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, moi, la solution à la fin de... Et j'ai beaucoup de mal, et je comprends l'analyse politique, et je pense que là-dessus, c'est un désaccord fondamental, mais vraiment, je me rappelle être sorti des Misérables et me dis, ah oui, c'est pas ouf. Enfin, pour résumer, je n'ai pas dit ça comme ça, mais tu vois, au contraire, moi, je pense que je suis sorti des Misérables en me disant, là, on m'a monté un problème extrêmement spécifique dans cet endroit, qui fait que n'importe quel fait divers peut monter jusque-là. Et ça, c'est le sujet.
Moi, je suis vraiment d'accord avec ton analyse, Arthur, et c'est exactement ce que je me suis dit, en fait, quand je suis sortie du film. Je me suis dit, c'est intéressant parce qu'il prend le parti, en fait, d'utiliser ce qu'on pourrait qualifier de caricature. Mais en fait, là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la vérité, c'est que quand tu regardes, quand tu lis les journaux, quand tu regardes ce qui se passe concrètement, en fait, c'est une caricature. En fait, on vit dans une caricature. Et moi, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. C'est manichéen, mais parce que la réalité est super manichéenne. Enfin, je vois pas comment on peut pas
le voir de manière manichéenne. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, Juliette.
Moi, globalement, je suis d'accord. Arthur, j'avais envie de dire drop the mic après. après son truc. Oh. Non, mais.
Oui, mais c'est ça, les micros. C'est impossible de drop le mic, c'est ça. C'était une blague, évidemment, visuelle à la radio. Non, mais globalement, je suis assez d'accord. Je pense que je suis quand même restée un peu plus en dehors du film, mais politiquement, enfin, du coup, moi, je vais plutôt me placer entre vous deux. Effectivement, le film est très caricatural, mais je pense que ça amène aussi à réfléchir sur la question de... Est-ce que... Enfin, le manichéisme au cinéma aussi, parce que Costal, pour l'éventer, je suis désolée, je fais une petite digression, mais tu parlais justement du fait que le film était peut-être trop manichéen. Mais en fait, il y a des situations où c'est bien aussi d'être manichéen, je pense. Et que là, justement, je trouve que ce manichéisme... Je trouve que ce manichéisme, il est voulu et il marche. Et c'est ce qui marche aussi dans plein de films. Je veux dire, mais le méchant, il est très méchant. Et il est très, très, très méchant. Et c'est ça qui fait du bien, c'est ça qui fait plaisir dans ce film. C'est cette délectation que t'as à voir ce méchant-là qui est horrible et qui pourtant correspond à une réalité. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, politiquement, je suis d'accord avec vous. Après, moi, j'ai quand même des réserves sur le personnage principal qui, pour le coup, est poussé dans la caricature parce que manichéisme, mais du coup, il est trop parfait pour être vrai et du coup, je trouve que ça nous sort un peu du truc, même si moi, je l'ai beaucoup aimé. Enfin, je sais pas, cette fille, je sais pas où elle trouve son temps, elle est jamais fatiguée, elle fait une association, un stage, elle doit pas être payée, elle s'occupe de sa famille.
Bah, c'est clair.
C'est ça.
Non, c'est clair, surtout, elle a c'est surtout un personnage de Toledano et Nakash.
Bah, c'est ça. Moi je... Encore une fois, je trouve le méchant est super bon, mais effectivement, l'héroïne est peut-être un peu trop caricaturale, même si moi, la caricature, ça me dérange pas, mais c'est juste que je pense que ça m'a un peu sorti du film. Et la photo, moi, je la trouve pas si moche. Franchement, Paul, t'as été vraiment fort, parce qu'il y a des films beaucoup plus moches, rien que Acide. Voilà, merci.
Oui. Et qu'elle arrive jamais à soit créer une réalité tangible au récit, soit on dirait une image, je suis désolé les enfants, on dirait une image qui a été bien filmée, mais qui a jamais été touchée en poste.
Moi, je dirais pas ça, je dirais plus que...
Ou alors, ils ont accentué les contrastes, mais c'est tout, quoi.
Moi, je dirais plus qu'une mauvaise photographie, il y a des mauvais... Enfin, il y a un trope, là, Julie, sur les drones et...
Les escaliers et les drones, il y a un truc, hein, vraiment. C'est comme dans Les Misérables, les escaliers et les flics de dos, ça, c'est vraiment...
Non, mais bien. C'est le truc, c'est que je trouve que filmer au drone, c'est toujours dégueu. J'ai jamais trouvé un... Peut-être à la limite, il faudrait que je vois Ambulance de Michael Bay, parce qu'apparemment, il paraît que c'est bien filmé au drone.
Elle a pas fait ça, Alice Terror. Pourtant, elle a tout tenté dans son film, mais elle a pas
tu sais, le seul film qui est magnifique et qui a été filmé au drone, Les Secrets de la Princesse de
Kelly. Oh je vais peut-être juste rajouter quelque chose. Moi, je trouve que par exemple, par contre, ce que je retiens vraiment de ce film, t'en as parlé un peu, Paul, mais c'est la scène de début, en fait, c'est cette scène de descente d'escalier qui est magnifique et hyper subtile et qui justement nous fait entrer dans le film de la bonne manière. Et je trouve que voilà, ça enlève la caricature paraît encore plus caricature parce que après cette première scène d'introduction qui est magistrale, mais je trouve que ça marche, ça va dans le sens du récit et ça apporte quelque chose et ça fait que c'est un tout qui pour moi reste quand même cohérent.
Non, puis moi il y a un truc de le film s'auto, alors oui d'accord, pour l'héroïne principale c'est un peu une Marisson en effet, elle est capable d'absolument tout le temps et elle réussira tout, enfin on l'imagine, mais moi il y a un truc quand même qui trouve que pourquoi ça fonctionne en fait d'en faire une caricature et pas de faire un film qui serait nuancé, complexe, machin, et que tout le monde il le veut pas, que ça se termine mal, mais que ça se termine mal quand même. C'est qu'en fait, le film est grosso modo vu que du point de vue de la cité, ce qui est très différent des Misérables. Les Misérables, on était moitié du temps dans la cité, enfin un tiers du temps dans la cité, les deux tiers avec les policiers. Qu'en plus, on avait un policier qui était relativement responsable dedans, en fait. Donc, du coup, il y avait vraiment une pondération dans la pondération à chaque fois. Là, non, en fait, le truc c'est que le maire, en effet, on nous présente qui c'est. Assez rapidement, vite fait, les lieux dans lesquels il vit, mais c'est juste à des fins scénaristiques, en fait, juste pour savoir qui il est. Mais on est tout le temps du point de vue de la cité, et à ce moment-là, ça fonctionne, en fait, d'avoir un méchant caricatural, d'avoir une police qui est complètement abrutie. Parce que, en effet, alors oui, peut-être que les policiers, ils veulent pas que ça se termine mal, peut-être que le maire, il veut pas que ça se termine mal, en effet, il y a peut-être toute une complexité qu'on a derrière. Sauf que quand on est dans cette cité-là, ben. Tout ce qu'on nous prend dessus, c'est de la violence. C'est que de la violence, en fait. Et c'est là où Les Misérables, moi, échouaient. C'est qu'en fait, on ne comprenait pas... Enfin, on ne pouvait pas comprendre, en fait, pourquoi il y avait une haine si forte de la police dans cette cité-là. Parce que on était constamment du point de vue des policiers. Parce qu'on se disait, ah, mais en fait, on peut discuter. Enfin, imaginez, vous discutez ensemble, et ça pourrait fonctionner. Il y a cette possibilité... Ah, si, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a toujours cette possibilité-là. Vu que le spectateur, il a le point de vue extérieur... Mais en fait, lui, il se dit, mais il n'y a pas de méchant, on pourrait s'entendre et tout ça. Ce qui, là, moi, ne fonctionne pas là-dedans, vu qu'on n'est que du point de vue de la cité. Mais en fait, tout est tellement une violence qu'on voit qu'il n'y a pas d'échappatoire à ça. que c'est inéluctable. Et pourquoi il y a une plus grande inéluctabilité dans ce film-là que dans Les Misérables ?
Oui, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, je trouve que ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'au début, on se dit « Ah putain, je vais voir le même film que Les Misérables. » Et en fait, moi, j'ai bien aimé Les Misérables, et j'ai trouvé que c'était un film qui, malgré tout, avait une sorte de point de vue dans le fait que je pense que tous les gens qui ont vu le film ont un peu changé d'avis, tu vois. C'est-à-dire que si tu te places du point de vue des policiers, enfin, dans les deux sens, je trouve que c'est un film qui fait réfléchir et qui fait changer d'avis.
C'est un film avec un peu de philosophie, voilà. Notamment, et de la psychanalytique.
Là où, en fait, ce film-là assume son parti pris, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une forme, de renouvellement par rapport au film d'avant et qu'il vaut le coup d'être vu, voilà.
Mais tu sais quoi, tu me décris un film que j'ai pas vu en fait, parce que je trouve justement qu'on n'est pas assez du point de vue de la cité, qu'on passe beaucoup trop de temps avec le maire facho insupportable, et que justement ces scènes ne servent à rien. Et tu sais quoi, je suis même presque prêt à défendre la caricature, tu vois. Je suis prêt à dire, c'est bien de faire des flics qui ont l'air de fascistes, je serais ravi d'avoir des films entiers là-dessus. Mais en fait, moi, le problème, c'est que le film fait pas ça factuellement. Et que parce que le film est à la fois extrêmement caricatural et que je le trouve politiquement pas assez engagé, pas assez fort, pas assez brutal dans sa violence, et ben en fait, et en plus perdu dans des sous-intrigues absurdes comme l'histoire des réfugiés syriens catholiques qui sont agrafés au film avec la violence de si je vous agrafais, je sais pas moi, ce stylo dans la peau. Enfin, c'est...
La comparaison était douteuse.
mais je pense justement que le film n'arrive pas complètement à assumer ce point de vue. Et c'est ça mon problème, c'est que soit on vous suit, et c'est un film qui est vachement bien pour les gens qui ont cette opinion-là, parce qu'effectivement c'est bien de promouvoir ce genre de film, soit en fait on a, enfin moi je trouve que c'est pas un film qui fait ça justement. Moi je suis sorti du film, je me suis dit c'est un film qui est à la fois pas assez politique, trop caricatural et qui va nulle part en prenant 1h40 de mon temps, et c'est un peu un problème.
Mais peut-on résoudre cet amendement? Je sais pas. Écoutez, en tout cas Arthur et Margot ont l'air plutôt de vous conseiller, et Juliette, d'aller voir ce film. Et nous allons peut-être conclure l'épisode sur ça. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Au revoir.